Radio Kapi.
Les informations, Blaise Shindani Kambala.
Réaction continue de tomber quant à la mesure du ministre de la Justice concernant les abus dans les réseaux sociaux. Les dernières en date sont celles du président des influenceurs et l'ONG Justicia ASBL. Les détails dans quelques instants. Moukoko Samba appelle à un partenariat industriel stratégique entre la RDC et le Japon. Il l'a dit hier à Kinshasa lors du lancement du tout premier forum d'affaires RDC-Japon. Les États-Unis d'Amérique viennent d'imposer des sanctions contre la RDF ainsi que contre quatre de leurs officiers supérieurs. Washington reproche à ces derniers leur soutien opérationnel direct au M23 et à ses alliés dans l'est de la RDC. Ces sanctions ont été analysées par les intervenants à l'émission Dialogue entre Congolais d'hier mercredi. Vous les suivrez tour à tour au micro de Guimate Tchongo. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal Parlé. L'actualité, c'est encore des réactions après l'annonce du ministre de la Justice d'instruire les procureurs de renforcer les poursuites contre les infractions dans les cyberespaces. Nous vous proposons celui du président de l'association des influenceurs et créateurs de contenu national et diaspora. Dadi Michel Molongi salue cette mesure du ministre Guillaume Ngefa, mais il insiste sur le fait que cette remise à l'ordre ne se transforme en une restriction de la liberté d'expression. Ces propos sont recueillis par David Mugisa.
Alors, en tant que président de l'association des influenceurs et créateurs de contenu, nous saluons toute l'initiative du ministère de la Justice visant à lutter contre les infractions dans le cyberspace. Cependant, nous insistons sur un point essentiel. La régulation ne doit pas devenir une restriction de la liberté d'expression, vous comprenez ? Donc, il est important d'accompagner le créateur par la sensibilisation, la formation et un cadre clair afin que la loi protège sans étouffer la créativité numérique qui présente aujourd'hui une vraie opportunité économique pour notre jeunesse.
Pour sa part, l'organisation congolaise Justicia ASBL fait sa lecture de ce communiqué. Elle dénonce carrément une tentative de réduire la liberté d'expression. Le coordonnateur de cette organisation de promotion des défenses des droits de l'homme et du droit international humanitaire, Timothée Mbouya, s'est exprimé au téléphone de Lévin Mbunga.
Justicia ASBL dénonce les tentatives du gouvernement congolais de réduire au silence les voix critiques et indépendantes à travers ces communiqués de presse ou ces communiqués officiels rendus publics par ministère d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Si la loi sur le code du numérique existe bel et bien, il est quand même suspect que pendant que la République démocratique du Congo s'apprête à aller vers des échéances électorales, que les débats politiques aient animé notamment par le changement de la Constitution ou même la situation sécuritaire qui prévoit en Est, il est quand même inconcevable que pendant ce temps, le gouvernement rappelle des mesures qui pourraient restreindre drastiquement les libertés d'expression, les libertés d'opinion et, dans une certaine mesure, les libertés fondamentales qui sont reconnues aux citoyens.
Au chapitre économique, notez le lancement hier mardi à Kinshasa du tout premier forum d'affaires RDC-Japon. Le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale, Daniel Moukoko Samba, a plaidé pour que ce forum constitue le point de départ d'un partenariat industriel de nouvelle génération axé sur la transformation locale des matières premières. Il nous faut passer de l'extraction à la transformation, a-t-il martelé, soulignant l'ambition du gouvernement congolais de développer des chaînes de valeur. Selon lui, l'ambition est claire, développer des chaînes de valeur autour des batteries, de la transformation minière à forte valeur ajoutée, des zones économiques spéciales industrielles, ainsi que des partenariats technologiques dans la métallurgie avancée et le recyclage. Il l'est dit dans cet extrait choisi par Blaise Ndongala Mayanda.
Dans cet environnement où rien n'est aussi clair qu'on le souhaite, il est utile de revisiter les liens, de ressouder les relations entre nos États et de renforcer les liens entre nos peuples. Les relations économiques entre nos deux pays, contrairement à ce que l'on croit très souvent, ne datent pas des années 1970. Les données disponibles indiquent que le Japon était un des principaux partenaires commerciaux du Congo belge avant la Deuxième Guerre mondiale. C'est pourquoi je voudrais exprimer le souhait que ce forum ne soit pas une simple plateforme d'échange, mais plutôt le point de départ d'un partenariat industriel de nouvelle génération. Parce qu'il nous faut passer de l'extraction à la transformation. L'ambition du gouvernement congolais est claire. Nous voulons transformer localement. Nous voulons développer des chaînes de valeur des batteries, des unités de transformation minière à haute valeur ajoutée, des zones économiques spéciales industrielles, des partenariats technologiques dans la métallurgie avancée et le recyclage.
Et puis, le nombre d'accidents de la route ne cesse d'augmenter au Kasaï central. La Commission nationale de prévention routière qui s'inquiète indique avoir déjà enregistré 63 cas d'accidents entre le 1er janvier et le 4 mars 2026. Ces accidents ont causé la mort de 39 personnes, fait des dizaines de blessés et occasionné d'importants dégâts matériels avec plusieurs engins gravement endommagés. Selon André Ndaladimoué, directeur provincial de la CNPR, cette situation est notamment due à l'ignorance du code de la route par de nombreux conducteurs à l'ivresse au volant ainsi qu'au manque de signalisation routière sur plusieurs axes de la ville de Kananga. Nous l'écoutons au micro d'André Katende Ngalamouloumé.
La première des causes, c'est l'absence de connaissances des nouveaux codes de la route. Nos conducteurs allument seulement les véhicules, engagent les vitesses et réduisent les vitesses. Pour eux, sont devenus des chauffeurs. Non, venez à la Sainte-Père pour qu'on puisse vous recycler et remonter votre niveau de conduite. Nous ajoutons les cas des drogues au volant. Donc, ce n'est pas seulement l'ivresse de l'alcool, mais il y a aussi l'ivresse des chanvres. Il y en a plusieurs que je peux citer ici. Nos routes sont niouettes. Nos routes ne parlent pas. La population manque comment s'orienter.
Lorsque vous parlez d'une route muette, à quoi est-ce que vous faites allusion?
Je suis en train de faire allusion des signaux, c'est-à-dire il y a les panneaux de signalisation, il y a marquage au sol, il y a les feux lumineux. Donc si un conducteur ne maîtrise pas ça, et si la route est construite sans ces signaux-là, en tout cas, attendez-vous à des cas pareils, des morts, des blessés, des dégâts, ainsi de suite.
Sécurité à présent, un conflit interne entre factions Wazalendo plonge plusieurs localités du territoire de Chabunda au Sud-Kivu dans une crise sécuritaire et humanitaire. Depuis plus d'une semaine, des affrontements opposent ces deux groupes rivaux, paralysant la vie socio-économique et forçant les habitants à fuir en brousse. L'alerte est lancée par le député national Placide Ouenda. Selon cet élu de Chabunda, qui s'est confié à la presse à Kinshasa, les combats opposent les éléments d'un certain Kiwi basé à Lusengi, à une autre faction venue de Nonda et Salamabila au Maniema, actuellement positionnée à Masangajinya. Face à cette situation, il appelle à une intervention urgente des autorités. On écoute le député Placide Ouenda dans cet extrait proposé par Grace Amzati Masanzi.
De Kalole, Masanganjia jusqu'à Bimpanga, jusqu'à Mukoloka même, ça fait plus d'une semaine que les enfants ne partent pas à l'école. Tous les hommes sont en pleine forêt et c'est là parce que simplement il y a des fractions de Wazalendo qui se battent entre eux. On ne peut pas comprendre que les gens qui sont d'ailleurs d'une autre province viennent insécuriser toute une population et ce qui se passe là est assimilé à des crimes contre l'humanité. C'est pour cette raison que j'en appelle aux autorités nationale et provinciale de prendre cette situation comme alerte et qu'il y ait quand même des solutions envisagées parce que ça ne va pas. Il y a des gens à qui on a ôté les oreilles, d'autres on a crevé les yeux, beaucoup de gens sont torturés, un pillage systématique parce que il y a les Wazalendo du général Kiwis qui sont présentement là à Lusengi et ceux-là qui sont venus de Nonda et de Saramabila qui sont à Masanganjia et se battent. C'est une question de positionnement. Les leadership de chez eux, il y a une coordination qui a été faite, qui a écarté certains et d'autres prétextent que ceux-là qui viennent du front ont fait allégeance à l'ennemi, ce qui n'est pas normal.
En Ituri, pendant ces temps, des jeunes du centre commercial d'Amé et des entités environnantes en territoire de Mahagi indiquent que plusieurs d'entre eux quittent la région pour se rendre dans d'autres milieux, voire vers la province voisine de Haut-Ouélé, à la recherche d'un emploi. Selon les notables locaux, l'oisivité pousse certains jeunes à consommer excessivement des boissons fortement alcoolisées, pourtant interdites. Cette situation entraîne des conséquences néfastes sur leur santé. Le point avec Jean-Claude Loki-Dilé, en séjour dans la zone.
La plupart de ces jeunes s'adonnent à l'activité du taxi-moto, d'autres se lancent dans de petits commerces. Cependant, ceux qui ne disposent pas de moyens pour démarrer une activité lucrative sombrent rapidement dans l'oisivité. Jean-Marie Caruarino, notable de la région, alerte sur cette dérive.
La jeunesse est plongée pratiquement dans la boisson. Vous venez vous-même de constater que dans des boutiques, il n'y a rien que des boissons.
Qu'on puisse encadrer pour la jeunesse avec tout autre service technique, cela n'a pas été fait.
Certains jeunes, pour se mettre à l'abri de l'influence des groupes armés, décident de changer de milieu. Ils espèrent trouver ainsi ailleurs de meilleures opportunités de vie, comme l'explique Agenonga Okati, jeune motard au centre commercial d'Amé.
Environ 2000 jeunes du groupement Amé ont migré vers la province de Haut-Ouélé parce que ici ils n'ont pas trouvé de boulot. C'est ce qui les pousse à quitter le milieu.
La semaine dernière, le responsable du bureau du PNUD à Bounia a annoncé que plus de 3 millions de dollars américains sont déjà disponibles pour relancer les programmes de PDDCS dans les territoires du Djougou, Irumu et Mahagi. Les jeunes d'Amé attendent maintenant que ces fonds annoncés se traduisent rapidement en projet concret sur le terrain. Depuis Amé, Jean-Claude Loki, Dilé, Radio Okapi.
Revenons dans la capitale. Les chrétiens catholiques vivent les temps de carême. C'est un compte à rebours de 40 jours qui a débuté depuis le 18 février dernier. Pour ces croyants catholiques, le carême est bien sûr plus qu'une simple tradition liturgique. C'est un temps pour se préparer à la fête de Pâques. Le thème retenu cette année est carême, temps du renouvellement intérieur. Entre privations alimentaires et quête de paix intérieure, comment concilier prière et vie active? Daniela Awa est allée à la rencontre de ceux qui font de ces temps spirituels un moment de solidarité.
Selon le père Olivier Azili, curé de la paroisse Sainte Rita à Mongafula, le carême est ce temps fort de l'église qui permet aux chrétiens de se recentrer sur l'essentiel, purifier son esprit et son corps et aussi se rapprocher des dieux et des autres.
Pendant ce temps de carême, nous avons trois piliers. Le premier, c'est le partage avec nos frères et sœurs qui sont dans les besoins. Le deuxième pilier, c'est la prière. Chaque vendredi, nous avons le chemin de croix. Et le troisième pilier, c'est la pénitence. Nous devons nous réconcilier avec Dieu, avec nos frères et sœurs.
Stanislas Nsassi Koundé, fidèle engagé de la paroisse, nous parle de son expérience.
Moi, personnellement, je vis mon temps de carême. Chaque matin, je viens à la messe, je communie.
De son côté, Annie Kibingwa parle avec enthousiasme de sa foi.
Pendant ces temps, nous prions beaucoup et nous nous privons de ce que nous aimons le plus, par exemple la nourriture, la boisson et le comportement. Mais pendant ces temps de carême, j'ai diminué ma fréquentation aux réseaux sociaux.
Pour rappel, ce temps de carême s'achèvera le samedi 4 avril au soir, à la veille de la célébration de la Pâque, le 5 avril prochain.
Bonne nouvelle pour les étudiants de l'université Mapone dans la province du Maniema. Pour la première fois depuis sa création, le comité de gestion a obtenu l'homologation des diplômes des 5 promotions successives. De retour à Kindu, le recteur de l'université, le professeur ingénieur Patrick Mobambo Kitumengongo, a annoncé la nouvelle lors d'un point de presse tenu ce mardi 3 mars dans la grande salle de réunion. Selon lui, cette homologation confère une reconnaissance et une qualification accrue à cette institution de haute technologie. L'université s'engage à remettre les diplômes aux étudiants où qu'ils se trouvent, ceux-ci s'étant déjà acquittés de leurs obligations académiques. Florence Kizalunga.
Il s'agit de 320 diplômes de 5 promotions de 2020 à 2025. Les étudiants bénéficiaires présents lors de la délivrance de ces documents se sont ainsi exprimés. Lufimbo Bouchiri Osela.
Je suis tellement heureuse. Déjà, ça ne faisait pas plaisir que nous finissions un cycle et après on n'a pas de diplôme. Mais maintenant que nous apprenons qu'il y a nos diplômes qui sont disponibles, nous sommes vraiment heureux.
Cette cérémonie nourrit d'espoir les étudiants de cette année académique qui espèrent avoir aussi leur diplôme. Landou Mouigny Carlos est leur coordonnateur.
Quand on a les diplômes délivrés, on a la conscience et on reconnaît que notre institution est reconnue par le ministère des tutelles. Nous encourageons les nouveaux diplômés à toujours maintenir cet esprit d'excellence, d'intégrité, de professionnalisme qui doivent caractériser tout étudiant de l'université Mapon.
Les recteurs garantissent les parents et étudiants que la remise de diplômes se fera chaque année. Professeur Patrick Mubambo.
Étant donné que le premier lot est déjà sorti, est déjà homologué par la tutelle, donc je ne vois pas pourquoi ça va encore poser des problèmes dans l'avenir.
D'après le recteur, ces diplômes sont à retirer gratuitement. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Actualité internationale.
En Côte d'Ivoire, le prix du kilogramme de cacao pour la campagne intermédiaire de commercialisation est fixé à 1200 francs CFA, une baisse de plus de 57% par rapport à la campagne principale qui avait atteint le prix record de 2800 francs CFA le kilo. L'annonce a été faite ce mercredi après-midi 4 mars par le ministre de l'Agriculture Bruno Nabanié-Koné lors d'une conférence de presse à Abidjan.
L'invité.
Les États-Unis viennent d'imposer des sanctions contre les forces de défense rwandaises RDF ainsi que contre 4 de leurs officiers supérieurs. Washington reproche à ces derniers leur soutien opérationnel direct au M23 et à ses alliés dans l'est de la RDC. Ces sanctions ont été analysées par les intervenants à l'émission Dialogue entre Congolais d'hier mercredi. On les écoute au micro de Guy Matetsongo.
Henri Pacifique Mayala, vous êtes coordonnateur du baromètre sécuritaire du Kivu. Comment vous analysez ces sanctions qui touchent non seulement les 4 officiers supérieurs de l'armée rwandaise, mais aussi les forces armées rwandaises de la RDF?
Ces sanctions constituent en tout cas une avancée majeure, une victoire diplomatique pour Kinshasa. Je le disais donc, une avancée majeure dans la bonne direction, dans le sens où, comme nous l'avons décrié pendant au moins toute l'année depuis que les initiatives de médiation ont commencé, dont notamment avec l'implication de l'administration Trump, d'une part, on a beaucoup plus observé des mesures d'encouragement. C'était beaucoup plus la carotte et très moins de bâtons. Et là, on a comme l'impression que avec toute son imprévisibilité, le président Donald Trump est passé plutôt à une vitesse supérieure. C'est une première aussi, il faut le signaler, parce que jusque-là, on avait documenté que des sanctions qui ciblaient notamment des personnalités rwandaises, sans pour autant toucher au système, si je pourrais le présenter en tant que tel. C'est une mesure qui, dans l'ensemble, a pour objectif d'inciter le Rwanda à une bonne attitude, en tout cas c'est ce qui est repris dans le communiqué de l'OFAC, l'agence américaine qui est en charge de sanctions.
Marius Mubalama, vous êtes analyste sociopolitique et proche du docteur Denis Mukwege. Vous êtes président national du mouvement Congo des valeurs, et COVAL en sigle. Vous également, comment vous analysez ces sanctions américaines contre la RDF et 4 de ses officiers?
Aujourd'hui, nous saluons la décision de Washington. Il a constaté que le Rwanda n'a pas respecté les accords de Washington tels que ça a été signé, que nous avions décrit déjà en son temps, nous avions lancé l'alerte. Aujourd'hui, les sanctions qui sont prises par les États-Unis vont dans le sens de faire respecter maintenant la résolution 2773. Cette résolution qui demandait le cessez-le-feu immédiat sa condition, le retrait du RDF, ce qui est demandé aujourd'hui par les Américains, mais également le démantèlement des administrations parallèles mises en place par Nanga. Et donc cette résolution allait dans le sens de tuer le M23. Parce que si le Rwanda ne continue pas à soutenir le M23, vous comprendrez par là que le M23 n'allait plus exister. Et donc ces sanctions-là sont nécessaires, mais nous disons qu'ils sont non suffisante, dans le sens que les sanctions à elles seules permettent à ce que le Rwanda soit affaibli, le RDF serait sur notre territoire, on recouvre notre intégrité, notre souveraineté. Nous allons encore déployer l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Mais également, il y a une autre proposition que nous avions donnée, comme pilier pour la sortie de la crise, c'est la tenue de la conférence internationale. Étant donné que le conflit n'est pas seulement bilatéral entre le Rwanda et la RDC, nous avons demandé à ce qu'il y ait cette conférence internationale-là qui pouvait avoir pour objectif de revitaliser l'accord d'Addis Abeba.
Henri Pacifique Mayala, et s'il faut parler des retombées possibles de ces sanctions, à votre avis, si à la suite de ces sanctions, le Rwanda cessait de soutenir la M23, cette rébellion aurait-elle la capacité de mener seul le combat ou est-ce qu'elle peut parvenir à évoluer seule sans le soutien du Rwanda?
Ah ben ça, c'est une très belle question. C'est une réflexion intéressante qu'il faudrait mener à tête froide. Et comme je le disais l'autre fois, qu'il ne faudrait pas nécessairement garder la lentille qui analyserait le M23 comme étant entièrement dépendante du Rwanda. Bien sûr qu'à certaines mesures, et on l'a déjà vu qu'en 2012 avec le retrait du Rwanda, moyennant d'énormes pressions diplomatiques et économiques sur son régime, le retrait de ce soutien à l'époque a été aussi accompagné d'une certaine façon d'une implosion interne du M23. Ça aussi, c'est une dimension sur laquelle il faut revenir. Aujourd'hui, nous sommes à ce stade où, bien sûr que l'apport du Rwanda au M23 est substantiel et le retrait du Rwanda devrait déterminer quelle serait l'agence dont se serait doté le M23 afin de pouvoir en finir avec cette crise. Parce que pour moi, la configuration actuelle des affrontements, prenons l'exemple de l'utilisation intensive des drones, c'est une bonne chose d'avoir les drones, ça pose beaucoup de dégâts dans les camps des ennemis, mais c'est loin de récupérer les territoires partout où ils sont aujourd'hui présents.
Vous pouvez continuer à suivre l'émission Dialogue entre Congolais sur www.radiocapi.net et sur toutes les plateformes numériques de Radio Capi. Et c'est par là que nous mettons un point final à cette édition du journal Parlé. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur la radio de la paix avec Christelle Fritimangwa.